grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mauni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue. Le sujet du mois consacré aux femmes grâce au soutien de la Fondation Ford, le voici, la fistule obstétricale. Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes jeudi 17 juillet 2014, bienvenue à vous. Nous ferons dans les axes donc de ce débat, nous ferons le point sur la maladie, nous verrons la prise en charge qui est faite aujourd'hui de la maladie de la fistule et nous tenterons de comprendre les mécanismes de prévention. Pour cela, nos invités, le professeur Kalilou Ouattara, urologue de l'hôpital du Point G, également député à l'Assemblée nationale, Madame Tolo Oumoudiombele de l'association Niamane Mali, au téléphone Mahamar Aïdara de l'ONG Delta Survie. Je suis Famoussa Sidibé, Peting Diara est à la technique. La fistule obstétricale est une lésion résultant de l'accouchement qui a été relativement négligé malgré son impact destructeur sur la vie des adolescentes et des femmes. Elle est généralement causée par un travail prolongé et difficile. Les tissus mous du bassin sont compressés contre la tête descendante du bébé et l'os pelvien de la mère. Conséquence, une fuite chronique d'urine et ou de matière fécale. Cette définition est-elle juste, professeur Ouattara?
Bonsoir d'abord. Donc, je remercie le studio Tamani de nous donner l'occasion de venir parler d'un problème douloureux. Bon, les uns et les autres n'étant pas des agents de santé, ne connaissant pas l'anatomie et la physiologie des voies urinaires et des voies génitales. Je pense que la définition que vous avez donnée peut être compatible. Mais la vraie définition, on peut dire qu'il y a plusieurs définitions. C'est la perforation de la paroi vaginale au décours d'un accouchement de longue qui a duré, ce qu'on appelle un accouchement dystocique, qui va provoquer une communication entre les vagins de la femme et la vessie, parfois entre les vagins de la femme et le rectum. Et vous comprenez que dans l'un et dans l'autre des cas, la patiente va perdre des matières fécales ou les urines. Donc vous comprenez bien que pour une femme, c'est la plus grande injure qu'on peut vraiment lui faire, qu'elle développe la fistule vésico-vaginale. Bon, en fait, on peut dire aussi que la fistule, c'est une non-assistance à personne en danger. Parce que depuis l'Antiquité, tout le monde sait que quand une femme accouche, le soleil ne doit pas se lever et se coucher sur une femme en travail. S'il y a des difficultés à l'accouchement, les issues sont trois. Il y a trois issues. Tu as couché normalement, il y a un bébé vivant, il n'y a pas de problème, ça continue la fête, les baptêmes, tout. Mais l'accouchement dystocique peut amener à la mort de la parturiente. Est-ce que vous savez qu'au Mali, le taux de mortalité est maternel est de 264 morts maternelles pour 100 000 naissances vivantes? Bon, les femmes qui ont un accouchement difficile et qui arrivent à s'en sortir et qui ne meurent pas, le plus souvent, c'est elles qui vont venir avec la fistule.
Okay. Alors, nous dirigeons vers Madame Tolo Oumoudiombele. Vous êtes de l'association Niamane Mali. Dites-nous ce que cette association fait dans le cadre de la lutte contre la fistule au Mali.
Je salue également cette initiative de Sidio Tamani. C'est une très bonne initiative de nous donner la parole pour qu'on parle de cette souffrance que vivent nos sœurs en milieu rural et aussi bien qu'en milieu urbain, malheureusement. Donc, Niamane Mali est une association, une ONG actuellement, qui a été créée en vue de contribuer à l'amélioration de la santé et physique, psychique et sociale des femmes, des mères et des enfants. Donc ça, c'est dans ce cadre-là que nous avons identifier des femmes victimes de fusils à l'hôpital du Pongé, qui étaient délaissées à elles-mêmes, à leur sort, à leur souffrance. Donc Yamané a voulu les aider par la prise en charge du traitement et la prévention.
Alors, près de 2 millions de femmes vivent avec une fistule dans les pays en voie de développement et quelques 50 à 100 000 nouveaux cas apparaissent chaque année. Quel est le cas du Mali, par exemple?
Et pour le Mali, nous ne pouvons pas donner de statistiques fiables parce qu'on n'a pas mené d'études proprement dit dans ce sens-là. Mais il y a des chiffres qui sont donnés par l'Organisation mondiale de la santé. Et au niveau de notre association, nous avons des chiffres par rapport à certaines régions du Mali, comme la région de Ségou, la région de Sikasso un peu, et la région de Mopti. Donc nous pouvons donner quelques statistiques, mais même là, ce n'est pas des données issues d'études d'envergure.
Alors quelles sont les régions qui souffrent le plus?
Et on identifie la fistule dans toutes les régions du Mali. Comme nous avons beaucoup travaillé dans la région de Ségou, à ce jour-là, nous avons identifié 899 cas de fistule obstétricale.
800
cas. Maintenant, et grâce à l'accompagnement du partenaire comme IntraHealth, nous avons mené des campagnes dans la région de Sikasso et la région de Kaï. Là aussi, pendant 3 campagnes, on a pu prendre en charge plus de 200 cas. Donc l'ampleur, on ne peut pas déterminer l'ampleur du phénomène au Mali parce qu'il n'y a pas eu d'études.
D'accord. Alors, si l'on sait que plus de 1000 cas probables peuvent survenir chaque année, professeur, vous êtes de l'hôpital du Point G qui abrite un centre qui s'occupe des fistuleuses. Dites-nous quelle est aujourd'hui l'ampleur de la fistule au niveau de ce centre-là.
Bon. Moi, je pense qu'il faut dire d'abord que l'existence même de la fistule est un indicateur de santé publique. C'est la jauge de toute la politique de santé maternelle et infantile menée dans les pays. Tant qu'il y aura des fistules, ça veut dire qu'il y a défaillance quelque part dans la chaîne de prise en charge de la grossesse et de l'accouchement. Comme elle a si bien dit, la population des fistules dans le monde est inconnue. C'est l'OMS qui dit qu'il y a 2 millions et que la majorité de ces femmes la vivent
dans
aussi
en
voie de développement. Mais ce qui est sûr, au Mali, sur 1000 accouchements, il y a 3 à 4 cas de fistules. Donc si on fait la statistique, on va se retrouver à peu près 1000-1200 cas de fistules par an. Voilà. Mais au service d'urologie, 2 à 3 femmes qui consultent souffrent de fistules. 2 à 3 femmes. Et nous n'avons pas moins de 100 à 200 cas par an. La chirurgie de la fistule représente 15% de l'activité chirurgicale du service d'urologie. Mais entendons-nous, le service d'urologie n'est pas un centre de traitement de la fistule, c'est un service d'urologie où toute la pathologie urinaire de l'homme et de la femme sont traitées là-bas. Seulement, on a développé une activité parallèle qui est la prise en charge de la fistule, qui est une chirurgie assez spécifique.
Alors, estimez-vous qu'il faille créer un centre aujourd'hui de traitement?
Il faut créer un centre de traitement d'abord pour absorber les nombres importants de fistules qui restent. Mais un problème majeur, c'est la formation. Les chirurgiens de la fistule, on ne les trouve pas partout. Il y a une insuffisance criante des chirurgiens de la fistule. Et je pense que sur ce plan, l'État n'est pas resté. C'est parce que l'État a élaboré une stratégie nationale de prise en charge de la fistule. L'État a élaboré les standards nationaux de la fistule. Moi-même, j'étais nommé. D'ailleurs, je le suis toujours comme coordinateur chargé de la formation en chirurgie de la fistule et de la création des unités de prise en charge de la fistule au niveau de chaque région. Et comme ça a été dit, à travers IntraHealth, à travers Yamané Mali, beaucoup d'efforts ont déjà été faits sur le plan de la création même des unités de prise en charge de la fistule. On peut dire qu'à Gao, il y a une unité, à Ségou, il y a une unité, à Mopti, il y a une unité, à Bamako, il y a une unité, et à Sikasso, il y aura une unité, parce que le conseil de cercle de Sikasso a promis qu'ils vont construire. Bon, si on dit unité, l'unité, c'est d'abord la salle d'opération pour la prise en charge des fistules et pour la formation. C'est la structure d'accueil des femmes. Vous comprenez qu'une femme qui perd les urines, on ne peut plus aller la mettre en gynéco avec les femmes normales et on ne peut pas la mettre en chirurgie. Donc, il faut une structure spéciale d'accueil et spécialisée pour la mettre. Bon, à CAI, c'est prévu aussi pour qu'il y ait une unité.
D'accord. Alors, on me fait signe de l'autre côté que nous avons au téléphone Mahamar Haïdara de l'ONG Delta Survie. Bonsoir, monsieur Haïdara.
Bonsoir.
Alors, vous prenez ce débat en vol. Nous tentons de faire le point sur la fistule au Mali et les malades qui souffrent de la fistule. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre degré d'implication par rapport à la fistule, à la lutte contre la fistule et à la prise en charge au Mali?
Ok, merci bien. Vous pouvez me rappeler le nom là?
Famoussa Sidibé, je suis le présentateur.
Famoussa Sidibé, monsieur Sidibé, bonsoir, ça va bien. D'abord, je vous remercie infiniment pour penser à nous dans le cadre de la prise en charge de la fistule au Mali. Mm-hmm. Effectivement, au niveau de la région des Mopti, nous intervenons dans la lutte contre la fistule depuis 2000. C'est en 2000 qu'on a commencé à intervenir dans le cadre de cette maladie. Pour nous, on s'occupe surtout de la réinsertion des femmes malades fistules au niveau de la région de Mopti. Bon, c'est de plus en plus, nous avons, comme je l'ai dit, nous intervenons dans la réinsertion des femmes malades fistules. Nous avons en réalité trois dimensions d'intervention. Il y a les activités terrain pour la prévention de la lutte contre cette maladie. Il y a le recrutement, c'est-à-dire lors de... Après la sensibilisation des communautés de population, il y a aussi le recrutement. C'est-à-dire qu'on oriente, on essaie d'identifier les femmes au niveau des villages et on les oriente vers le centre de traitement, à l'hôpital. Et aussi la réinsertion de ces femmes. Une fois que ces femmes-là arrivent au niveau de l'hôpital, si elles sont prises en charge médicalement, on a construit un centre qu'on appelle le centre d'accueil et d'hébergement des femmes malades fistules, la Mopti. D'abord, quand elles viennent, elles sont hébergées là-bas. Et après leur prise en charge, après leur opération, le post-opératoire, elles reviennent au centre. Il y a certains qui viennent parce qu'après la prise en charge médicale, la femme ne peut pas immédiatement rentrer à la maison. Ou bien retourner dans son village, elle peut faire une semaine, deux semaines, 21 jours, un mois, voire même trois mois. Donc si elles reviennent au niveau du centre et qu'elles se sentent mieux, au niveau du centre, on a créé des activités génératrices de revenus. Donc, elles sont au nombre de 8. Donc, la femme peut apprendre les activités là au niveau du centre. Voilà ce que nous faisons un peu au niveau de la région de Mopti.
Merci beaucoup, Monsieur Haïdara. Vous restez avec nous tout au long de ce débat. Nous allons observer une courte pause et nous reviendrons pour la suite de ce débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foco, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tchessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz. Radio Djamana de Djéné, 91 MHz. Et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz. Issaber de Niafunké, 96.3 MHz. Ce grand dialogue est relayé aux quatre coins du pays par les radios partenaires. Un grand merci à l'ensemble des techniciens qui assurent la mise en onde de ce débat. Le grand dialogue parle de la fistule obstétricale avec le soutien de la Fondation Ford. Cette deuxième partie du grand dialogue est consacrée à la prise en charge. Nous invités pour ce débat, le professeur Khalilou Ouattara, urologue à l'hôpital du Point G et également député à l'Assemblée nationale, madame Dolo Oumoundiombele de l'association Niamane Mali, au téléphone Mahamara Haïdara de l'ONG Delta Survie. Alors, la prise en charge, professeur, avant d'y venir, nous allons voir ensemble quelles sont les causes aujourd'hui de la fistule. La principale cause de la fistule, c'est quoi?
Donc, comme on vient de dire, la cause directe de la fistule, c'est l'accouchement dystocique. Dans tous les facteurs qui vont favoriser un accouchement dystocique, seront des causes. Et d'abord, il y a les causes physiologiques. Vous savez que chez nous, la pratique, c'est de marier les petites fillettes, non? 12, 13 ans.
Le mariage précoce.
Mariage précoce, qui ne sont pas...
suffisamment...
Elles ne sont pas mûres biologiquement, leur corps n'est pas mûr. Si vous les donnez en mariage, si elles ont une grossesse, et surtout quand on ne fait pas des CPN, si jamais elles accouchent, et le plus souvent elles accouchent à la maison là-bas.
On ne fait pas deux ?
Des consultations prénatales.
Prénatales, ok.
Donc les services de santé ne sont pas utilisés partout. Bon, vous imaginez-vous une petite fillette comme ça, si elle accouche à la maison. Le premier dégât, c'est la mort. Elle risque de mourir. Si elle ne meurt pas, elle va se retrouver avec la fistule. Donc les mariages précoces est un facteur favorisant de la fistule. Bon, à part ça, il y a les causes liées à l'absence même de services. S'il n'y a pas de sage-femme, s'il n'y a pas de médecin, les gens accouchent dans la nature comme ça. Vous-même, vous savez que la majorité des sages-femmes du Mali sont à Bamako. Il y a des régions, des cercles, où vous n'avez qu'un, deux sages-femmes pour toute la population.
Est-ce à dire que quand on est enceinte, mieux vaut se rapprocher des services sociaux de base?
Quand on est enceinte, moi je pense qu'il faut faire une consultation prénatale dans un lieu, vraiment une structure de santé habilitée avec tout le personnel qui est impliqué dans l'accouchement et qui a les plateaux techniques au cas où il y a des problèmes, qu'on puisse te faire la césarienne. Mais la césarienne, aujourd'hui, elle est gratuite. Dans des cas d'urgence, la gratuité de la césarienne. Mais même dans ces conditions-là, les gens ne viennent pas. Il y a un problème d'utilisation des services de santé.
D'accord.
Donc, à part ça, les mutilations génitales.
L'excision.
L'excision est la première cause de fuite d'urine chez la toute petite fillette. Regarde, une petite fillette de 3 ans, on lui fait des excisions, on enlève l'urètre, le col de la vessie. Donc, il n'y a plus le sphincter. Et nous, on assimile ça à la fistule. Bon, il y a un type d'excision aussi, qu'on appelle l'infibulation. Si on fait ça à une femme, l'infibulation peut être plus tard une cause de dystocie, d'accouchement dystocique. Donc les mariages précoces et puis les mutilations génitales sont l'une des causes vraiment. Et puis les grossesses multiples, 12. On a vu des femmes qui ont accouché 10, 11, 12 fois et c'est à la 12e fois qu'elles ont fait la fistule. Et l'utérus est fatigué. Quand elles accouchent, bon, il n'y a plus de force pour pousser tout ça. Donc, l'accouchement devient dystocique.
Est-ce que c'est-à-dire qu'il faut, à un certain nombre de grossesses, pratiquer la césarienne?
Il faut pratiquer la césarienne. Si vous êtes à 8-12 grossesses, moi je pense que, même si on ne pratique pas la césarienne, en tout cas, il ne faut pas accoucher à domicile.
À domicile.
Parce qu'il peut y avoir
des
complications. Vaut mieux aller accoucher, en tout cas, à l'hôpital. S'il y a une indication de césarienne et directement qu'on vous fasse la césarienne, ça vous met.
Alors, selon les spécialistes, un travail bloqué sans assistance peut durer 6 à 7 jours, bien qu'en général, le fœtus meurt après 2 ou 3 jours. Est-ce que cela existe?
Non, entendons-nous, La grossesse, c'est une primipare qui n'a jamais accouché. Ça ne doit pas durer, l'accouchement ne doit pas durer de 12 à 16 heures.
12 à 16 heures.
Chez une femme qui a déjà accouché, l'accouchement ne doit pas dépasser 7 à 8 heures.
D'accord.
Au-delà de ça, en tout cas, il y a problème.
Il y a problème. D'accord. Alors, madame, vous êtes membre de l'association Niamane Mali. Le professeur vient d'évoquer tout à l'heure les causes de la fistule. Une fois ces causes décelées, il y a la prise en charge médicale. Après la prise en charge médicale, quel est votre domaine d'intervention auprès de ces femmes-là?
Merci pour votre question. Dans le cadre de la prévention de la fistule obstétricale, et Yamane développe aux trois axes. Il y a la prévention, la prise en charge médicale et la réinsertion. Donc, dans le cadre de la prévention, c'est toutes les activités d'information, de sensibilisation qui sont menées à l'endroit de la population pour qu'ils changent de comportement une femme enceinte, pour qu'elle puisse faire la CPN, accoucher dans un centre de santé. Donc, quand la fistule survient, donc dans le cadre de ces activités d'information, nous identifions les femmes, celles qui ont la fistule, parce que il faut donner l'information sur qu'est-ce que c'est que la fistule, comment elle survient, quand elle survient, quelles sont les causes, les conséquences, parce que dans le temps, actuellement, on peut dire que la fistule est un peu connue dans le milieu rural, mais dans le temps, les gens assimilaient ça au mauvais sort ou à certaines pratiques faites par une femme enceinte ou bien des interdits. Donc on a donné assez d'informations, maintenant les femmes acceptent de se montrer. Sinon c'est une maladie honteuse, comme vous l'avez vu dans la définition. Donc les femmes ont honte de se montrer. Donc avec les activités d'information, celles qui acceptent de venir au centre sont prises en charge par Yamane Mali. Donc nous avons mis en place tout un dispositif de prise en charge, c'est-à-dire nous prenons le bilan, frais opératoires, l'hospitalisation, les frais de médicaments, les transports pour retourner. Et puis quand elles sont alitées, nous leur donnons une contribution pour la nourriture. Donc elles sont soignées au niveau des centres de traitement, à l'hôpital national du Pongé, à l'hôpital Nyanankoro Fomba à Ségou, à l'hôpital de Sikasso, à l'hôpital de Kaye et à l'hôpital Soumine Doulou de Mopti. Donc quand elle arrive, il y a toute une activité d'accompagnement parce que c'est des femmes qui souffrent, qui viennent en détresse. Donc il faut les accueillir. Il y a un accompagnement psychosocial que nous menons au niveau des centres de prise en charge. Donc quand elle arrive à l'accueil, déjà la femme est reçue. Donc on lui donne des informations, on essaie d'échanger avec elle pour qu'elle puisse se confier. Il y a un counseling entre une assistante psychosociale et la malade. Ça c'est à l'accueil. Maintenant, avant de mener les activités préopératoires, c'est-à-dire le bilan, on lui explique pourquoi on fait le bilan, pourquoi, qu'est-ce qu'elle va subir à l'hôpital, les opérations, sur quoi ça va aboutir, parce que ça peut réussir au premier coup, comme ça peut échouer. Donc, il faut lui parler de tout ça. Ensuite, après l'opération, quand elle est opérée aussi, il y a un entretien qu'on mène avec la femme.
Et là, il y a un suivi psychologique.
Un suivi psychologique à 4 étapes. À l'accueil, post-opératoire, père-opératoire et après. À la sortie, quand elle est traitée, soignée, guérie ou pas, avant de partir à la maison, il y a des conseils et des recommandations du chirurgien qui doivent lui être expliquées pour qu'elle puisse comprendre. Une femme qui est fistule guérie, donc il faut qu'elle ait un comportement. En cas de grossesse, il faut qu'elle aille dans un centre spécialisé où on peut faire la césarienne. Il faut qu'elle fasse la planification familiale également. Elles sont orientées vers les unités de PF pour qu'elles puissent se planifier. Ça, c'est très, très important. Maintenant, quand elles partent au village également, nous veillons à leur réinsertion sociale. Donc, nous les accompagnons dans les villages et là, nous travaillons spécialement avec les parents de la femme, la famille, le mari surtout, pour celles qui sont toujours dans le lien du mariage. Donc, il faut leur expliquer les recommandations du chirurgien, pourquoi il faut les appliquer pour éviter une grossesse prématurée.
Alors, une question, est-ce que toutes ces prises en charge-là, toutes ces démarches que vous entreprenez au niveau de votre association sont gratuites?
Oui, ces démarches-là sont financées par notre partenaire financier Yamani Suisse.
Donc une organisation. Vous ne prenez rien avec les
membres? Non, non, rien du tout. Rien. Tout est gratuit. Non, dès qu'elle rentre dans le centre de traitement jusqu'à sa sortie, tout est pris en charge.
Par l'association.
Par l'association.
D'accord.
Par l'association.
Alors, au téléphone, Mahamar Aïdara de l'ONG Delta Survie. Monsieur Aïdara, nous sommes dans le volet de la prise en charge. Nous l'avons vu, plus de 90% des opérations peuvent réussir contre 60% seulement qui échouent. Vous, à votre niveau, comment est-ce que ça se passe, la prise en charge, une fois que vous, les femmes fistuleuses vous parviennent?
Comme je vous l'ai dit, j'ai bien écouté, au moins, effectivement, nous intervenons à la réinsertion des femmes malades et fistules. Comme je l'ai dit, au niveau de Mopti, nous avons plus de 2083 villages. Donc, on s'est dit quoi? Ça veut dire, on fait des sensibilisations à ça. Mais nous, on a mis en place ce qu'on appelle le projet observatoire de la fistule. Parce qu'on s'est dit que sensibiliser un village, des villages, ça ne peut pas apporter un vrai changement au niveau des populations. Donc, il faut aller de façon progressive, chaque année toucher des communes, des communautés, et mettre un observateur au niveau de chaque commune, au niveau de chaque village touché. Bon, l'observateur, on l'appelle comité villageois de surveillance de la fistule. Et ce comité est composé de 7 villages. Parce que nous, on s'est dit que nous accompagnons par un partenaire. Donc, il se peut qu'un jour, le partenaire va se retirer et nous-mêmes, on va se retirer. Et que ce comité bien formé, bien équipé, pourra faire le travail, même si nous, on n'est pas sur le terrain. Donc, le comité est composé de 7 personnes, un président, un vice-président, un trésorier. C'est-à-dire qu'ils sont bien organisés, chargés de réinsertion, chargés de femmes à la réinsertion, ainsi de suite. Donc maintenant, ce comité nous aide dans notre travail. Bon, une fois que nous, en réalité, ce que Yamané fait est un peu différent de ce que nous faisons. Parce que Yamané est une prise en charge globale. Bon, nous, sur le terrain, après les sensibilisations, on oriente les femmes vers l'hôpital pour la prise en charge de la fistule. Bon, au niveau des Mopti, dans le temps, c'est les médecins du monde. C'est les médecins du monde qui s'occupent vraiment de leur prise en charge, c'est-à-dire les frais, tous les frais liés à la prise en charge médicale, c'est les médecins du monde. Tout ce qui est lié au transport, c'est les médecins du monde. Bon, nous aussi, nous contribuons en fonction vraiment de la disponibilité de nos financements. Mais on n'a pas... C'est-à-dire, des fois, on est confronté un peu à des problèmes de financement. C'est les médecins du monde, quand même, qui s'occupent des frais liés quand même à la prise en charge médicale avec l'hôpital. Mais nous, ce que nous faisons, une fois que les femmes viennent au centre, on les accueille. Nous avons des assistantes au niveau du centre qui les donnent des informations sur le projet, sur la maladie. Donc, une fois que leur traitement est fini au niveau de l'hôpital, donc elles reviennent au centre. Si elles reviennent au centre, toujours les sensibilisations continuent, comment se comporter, comment il faut faire, comment il faut, même quand vous tombez en état de grossesse, comment il faut se comporter, est-ce qu'il faut coucher, il faut accoucher dans un centre de santé. Donc les sensibilisations continuent et nous, on les apprend des activités génératrices de revenus, telles que la joaillerie, par exemple. La joaillerie, c'est la confection de colliers, où on a des partenaires comme les États-Unis qui appuient dans ce centre. Toutes les activités du centre, toutes les activités génèrent des bénéfices, et ces bénéfices-là sont répartis.
Donc il y a une grande partie de réinsertion sociale dans votre volet d'intervention. Vous restez avec nous. Nous allons observer une courte pause et nous poursuivrons avec la prévention, qui est le troisième volet de ce débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, Radio Binkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Merci d'être des nôtres. Nous parlons aujourd'hui dans le Grand Dialogue de la fistule avec le concours de la Fondation Ford. Troisième et dernier volet est consacré à la prévention de la fistule au Mali. Nos invités, le professeur Kalilou Ouattara, urologue à l'hôpital du Point G, également député à l'Assemblée nationale. Nous avons également avec nous Madame Dolo Oumoundiombele de l'association Niamane Mali et au téléphone Mahamar Haïdara de l'ONG Delta Survie à Mopti. Alors, professeur, une fois que l'on a décelé tout ça, est-ce qu'il reste une place aujourd'hui à la prévention? Est-ce que les mentalités peuvent changer? Parce que la plupart des causes, c'est en partie sociale. Les mentalités peuvent suivre cette prévention?
Bon, moi je pense que c'est une très bonne question. Il y a un adage qui dit que mieux vaut prévenir que guérir. Cet adage prend tout son sens quand on parle de la fistule. Mais il y avait la fistule en Europe. Il y a le professeur Sim qui avait mis en place des hôpitaux au XVIIIe siècle aux États-Unis pour traiter les fistules. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de fistule en Europe. Et ce n'est pas un miracle qu'ils ont fait. Ils ont tout simplement développé la sensibilisation et ils ont mis les moyens pour la prise en charge correcte de la grossesse et de l'accouchement. Les lois sont venues. Les mariages précoces, toujours, il y a eu des lois interdisant, déterminant l'âge auquel on peut marier une fille et tout ça. Bon, chez nous, tout ça, ça pose problème. Ça pose problème. Mais c'est faisable. Ce qui est sûr, vers les années 81, quand on opérait les fistules à l'hôpital du Point G, personne ne savait même pas. On a mis plus de 15 ans, personne, ce n'était le problème de personne. Mais après, les gens se sont intéressés et la sensibilisation est là. Je pense que dans beaucoup de contrées aujourd'hui, grâce à l'activité même de Yamane et Mali, mais dans pratiquement tous les villages aujourd'hui, on sait ce que c'est que la fistule. Et on sait que ce n'est pas quelque chose qui est lié à un mauvais sort. On sait que c'est le fait que l'accouchement ne soit pas pris en charge, qu'il y a des problèmes. Mais moi, je pense que la pyramide sanitaire du Mali, c'est d'abord les CSCOM. Les centres de santé communautaire. Ensuite, il y a les CCRF, il y a les hôpitaux. L'accent doit être mis sur les activités des CSCOM. Et surtout, la relation CSCOM et communauté. C'est là-bas qu'on doit agir. Parce que tant qu'on ne va pas agir à ce niveau-là, vraiment, ça va toujours poser des problèmes de retard de prise en charge et de la grossesse. Des retards de prise en charge de l'accouchement. Et c'est là. Bon, il y a des fissures qui se créent au cours même des interventions chirurgicales. On appelle ça des fissures iatrogènes, mais cela ne représente que 20 à 30%. C'est même beaucoup. Et la prévention sur ce plan est basée tout simplement sur la formation. Il faut former. Et la formation, c'est toute la chaîne d'agents des prestataires qui sont impliqués dans la prise en charge de la grossesse. Mmh. Donc, depuis les gynécologues, passant par les sages-femmes, les infirmières de santé, tout ça, il faut former. Et je pense que c'est à notre portée.
Alors, professeur, je l'ai dit tout à l'heure dans le deuxième volet, la fistule est curable et évitable. Une opération chirurgicale peut réparer la lésion et les taux de succès atteignent parfois 90% pour les cas simples. Pour les cas complexes, c'est le ça. Taux de réussite aussi aux alentours de 60%.
C'est ça.
Est-ce que cela veut dire qu'on peut guérir de la fistule?
Non, la fistule, d'abord, entendons-nous, la fistule n'est même pas une maladie. C'est une infirmité liée à une négligence. Quand tu as les palus, ça c'est une maladie, la cause est connue. Mais la fistule, c'est tout simplement vraiment une négligence, une non-prise en charge de la grossesse et de l'accouchement. Mais il s'agit d'un problème chirurgical. Ce n'est pas des incantations qui vont fermer les trous. Il s'agit d'opérer. Et la question se pose, qui doit opérer ? Doit opérer celui qui a reçu une formation spécifique dans le domaine de la chirurgie de la physiologie. Celui qui a cette compétence-là, c'est lui qui doit opérer. Mais les résultats, le plus souvent, ne dépendent même pas de la compétence directe du médecin, mais du degré des lésions, les lésions. Parce qu'il y a de ces fistules, c'est des délabrements urogénitaux complets. Plus de vagins, plus de col utérin, plus d'urètre. Et c'est des opérations plastiques qu'on peut entreprendre à plusieurs reprises, jusqu'à 8-9 fois. Il y a un Allemand chirurgien qui est venu à bout d'une fissure après 38 tentatives.
Alors, après cette réussite de l'opération, est-ce que la femme est capable de mettre d'une autre maternité encore ?
Bon, ça dépend des types. Ça dépend des types. Évidemment, si une femme n'a plus de vagin, sclérose vaginale, la physiologie du vagin n'est plus là, le col utérin a disparu, il est enfoui, elle n'aura pas d'enfant. Mais il y a une grande majorité des femmes qui sont capables toujours d'avoir encore des enfants.
Alors, en cas d'échec de l'opération, est-ce que la femme peut donner naissance encore à un enfant ?
Non, en cas d'échec de l'opération, mais on revient là-dessus. On revient là-dessus. Et le plus souvent, une, deux fois, pour les types 1, type 2, comme vous n'êtes pas de la médecine, on ne va pas vous parler de type 1, type 2, type 3, type 4 ici. Il y a plusieurs degrés de la fissure. Mais ce qui est sur les fissures type 1, type 2, type 3, il y a beaucoup de ces fissures vraiment qui guérissent et les femmes peuvent encore avoir vraiment une grossesse.
Alors, au cas où une femme a la fissure aujourd'hui, peut-elle avoir des rapports intimes ?
Bon, celle-là a la fissure. La fissure a été corrigée. Il faut quand même un certain temps, jusqu'à 2-3 mois, arrêter les rapports pour ne pas avoir une grossesse précoce. C'est ce qui fait d'ailleurs que il y a des activités de planification familiale qui sont incluses aussi dans la prise en charge.
D'accord, merci professeur. Voilà. Alors, madame, quelle prévention est efficace aujourd'hui auprès des femmes si l'on sait que la plupart des femmes nous viennent des zones rurales?
Et la prévention est un axe très important pour la fissure obstétricale. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Et les facteurs favorisant la fistule obstétricale, on peut mettre un frein à ces facteurs-là. Par exemple, le mariage précoce.
C'est ça.
Une fille mariée précocement fera une grossesse précoce. Et l'accouchement sera difficile si elle n'est pas assistée par un personnel qualifié. Donc ça, c'est un volet. Il y a certaines pratiques traditionnelles qui peuvent favoriser la fistule, comme l'excision, la pratique de l'excision. Donc, il y a d'autres pratiques, le fait d'accoucher à la maison, l'accouchement à domicile. Les femmes doivent éviter d'accoucher à la maison. Avant l'accouchement, il y a la CPN. Les femmes enceintes doivent faire la CPN,
les consultations
prénatales. Donc, accoucher au centre de santé avec un personnel qualifié. Et nous mettons beaucoup l'accent sur ces aspects-là. Une femme qui tombe enceinte doit aller faire la CPN et au bout, accoucher au centre de santé en évitant les mariages précoces et certaines pratiques néfastes. Là, on peut prévenir la fistule obstétricale. Et en impliquant les hommes, c'est un aspect aussi très, très important. Parce qu'en milieu rural, chez nous, c'est l'homme qui prend la décision et c'est l'homme qui finance aussi les dépenses de l'accouchement. Et si l'homme ne décide pas, l'homme ne donne pas les moyens, c'est sûr, la femme va traîner à la maison et au bout, elle aura la fistule.
Pensez-vous que vous êtes entendu dans ce combat de sensibilisation ?
Nous sommes là-dessus en train d'informer, de sensibiliser la communauté, d'informer et puis de sensibiliser les hommes pour que la femme aussi puisse avoir son mot à dire dans sa santé de reproduction. Parce qu'elle est enceinte, elle ne peut pas décider quand elle doit aller à l'hôpital. Au centre de santé pour la CPN. si le travail commence, elle ne peut pas prendre la décision d'aller d'elle-même
à l'hôpital
pour l'accouchement. Donc, c'est des situations. Donc, la femme, le plan d'accouchement doit être fait par le couple, le mari et sa femme. Et là, on prévient les difficultés de l'accouchement.
D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes Madame Dolo Oumou Diombele de l'association Niamane. Nous avons au téléphone Mahamar Haïdara de l'ONG Delta Survie depuis Mopti. Monsieur Haïdara, Mopti constitue la zone tampon, la porte d'entrée avec les trois régions du nord vers le sud, Tombouctou, Gao et Kidal. Dites-nous, comment est-ce que vous parvenez à sensibiliser à vos alentours, à Mopti et plus largement dans ces autres régions du Nord.
Ok, comme je vous l'ai dit, nous, nos actions, c'est pour le moment, c'est au niveau de la région de Mopti. Aujourd'hui, on peut dire que vraiment la sensibilisation que nous menons dans ces communautés là, un grand impact positif. Parce qu'avant, quand vous prenez, c'est comme une maladie que les femmes cachent. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, elles-mêmes nous appellent pour nous demander comment le traitement se fait. Donc je crois que ça, c'est déjà un grand changement. Par exemple, au moment de la crise où il y avait eu des problèmes vers Tombouctou, vers Gao, nous avons, il y a l'ONG AMSS de Tombouctou qui a amené ces femmes. Parce que AMS aussi intervient dans ce domaine-là, qui a amené ces femmes au niveau de notre centre. Et ces femmes-là ont fait leur traitement au niveau de l'hôpital. Voilà, au niveau de Gao, c'est Grefa. Grefa aussi est venu, mais Grefa a pris un centre ici. Et ces femmes-là aussi ont fait leur traitement au niveau de l'hôpital. Donc, dans l'ensemble, on peut dire aujourd'hui, vu les sensibilisations que nous avons menées dans les campagnes, dans les villages, vraiment, les femmes ne se gênent plus pour venir se traiter. Et surtout les relais que nous avons formés, que nous avons mis en place, ils font le recrutement de leur village. Ils sensibilisent. On a même un relais au niveau de India. Cette femme très brave qui est malade de fistule, qui aujourd'hui guérit et qui a même mis un enfant au monde. Elle fait le recrutement dans les plateaux de bon.
Merci
elle
beaucoup.
Elle arrive à convaincre quand même les femmes.
Merci beaucoup, Monsieur Haïdara, Mahamar Haïdara de l'ONG Delta Survie, pour avoir bien voulu participer à cette émission. Alors, un dernier mot avec vous, professeur Kalilou Ouattara. Vous êtes également député. Quelle est la place de ces effets collatéraux qu'on constate aujourd'hui après les accouchements? Que disent les députés?
Ok. Donc, je pense qu'avec ma nouvelle casquette de député et étant professionnel de la santé et étant d'ailleurs impliqué dans cette problématique de la fistule, je pense que j'ai mon mot à dire. Les députés votent des lois. Et à chaque forum concernant la fistule, on est en train d'entendre maintenant qu'il faut une loi pour une prise en charge gratuite de la fistule.
Les femmes comptent sur vous et sur
nous. Les femmes comptent sur nous et je pense que nous allons essayer de sensibiliser le ministère de la Santé
par rapport à
une loi. Comme vous avez remarqué, c'est les ONG qui prennent en charge.
Et il est temps que l'État entre dans la danse.
On ne sait pas, les ONG un jour peuvent ne pas être là. Donc,
merci beaucoup, professeur. Merci. 45 minutes de débat, ce n'est jamais assez, mais comme on le dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Ainsi s'achève ce grand dialogue d'aujourd'hui. Un grand merci à vous, chers auditeurs, pour l'avoir suivi. Je vous rappelle que nous parlions de la fistule obstétricale. Nous avons fait l'état des lieux de la maladie, vu ensemble la prise en charge et tenté de comprendre les mécanismes de prévention de la fistule. Nos invités, professeur Kalilou Ouattara, urologue à l'hôpital du Point G, également député à l'Assemblée nationale, madame Dolo Oumou Diombele de l'association Niamane, et au téléphone Mahamar Haïdara de l'ONG Delta Survie. Encore une fois, merci, chers invités, pour votre présence. Et je suis Famoussa Sidibé. Petit Ndiara était à la technique et Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission. Demain, vous retrouverez Sira Bachili pour le Forum de la presse. À demain.
grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.